France Inter, il est 13h. Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13-14 sur France Inter, à la une aujourd'hui. C'est le jour J pour les JO. Le 13-14 vous emmène en Chine pour la cérémonie d'ouverture au Nid d'Oiseau à Pékin. Ça démarre à l'instant. On vous racontera tout, le défilé et ses 14 000 figurants. Et dans le cortège, Kevin Roland, porte-drapeau de la France et skieur de freestyle français.
Je vais penser à profiter de ce moment, essayer d'emmagasiner l'énergie de cette cérémonie, parce qu'on va être tous entre athlètes et on va essayer de véhiculer cette énergie positive qui va nous faire, je l'espère, réussir ces Jeux Olympiques.
Énergie positive, mais événement particulier tout de même, marqué par la Covid, bulle sanitaire stricte, peu de public, et l'impact environnemental pose question, réponse un peu embarrassée d'un de nos sportifs français, et un boycott diplomatique de la part des États-Unis entre autres, alors que le président russe et le président chinois mettent en scène leur proximité. Nous en parlerons avec Jean-Philippe Béja, chercheur aux séries et spécialiste de la Chine. Dans le journal aussi, le président Macron à Moscou lundi. Comment le Kremlin voit-il les choses? On vous dira ça. 6 milliards d'euros pour verdir l'industrie, annonce du Premier ministre aujourd'hui chez ArcelorMittal, une des premières entreprises à en bénéficier. Quel impact sur l'emploi? On vous répondra. La recherche avance sur le cancer. Une bactérie de notre intestin pourrait nous aider à le soigner. Et puis, dans la deuxième partie du 13-14, on parle de vos placards. Vous y stockez sans doute deux fois plus de paires de chaussures que vous ne le pensez. Il faut vider et moins consommer. C'est l'objet de l'opération de l'ADEME. Osez échanger vos témoignages et vos questions. 01 45 24 7000. Le 13-14, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
14 000 figurants, des feux d'artifice, des effets spéciaux au Nid d'Oiseau de Pékin. Ça y est, les Jeux Olympiques démarrent officiellement en Chine. Après bien des difficultés liées à la pandémie de Covid, entre autres, c'est donc la cérémonie d'ouverture en ce moment même. Neige 100% artificielle malgré un climat glacial. Vous êtes en Chine pour France Inter. Bonjour Guillaume Battin.
Bonjour Marion.
Climat glacial au sens propre, il fait très froid, hein, j'espère que vous êtes couvert, mais aussi au sens figuré, drôle d'ambiance hein, pour un événement supposé être festif.
Oui, le Nid d'Oiseau n'est plus aussi douillé qu'en 2008. Pour les Jeux d'été, le surnom de ce stade, il a beau briller de mille feux. Ce soir, il fait près de moins 10 degrés dans la capitale chinoise. Et puis surtout, c'est un stade sans âme. La Chine a fermé ses frontières. Il n'y a donc pas de touristes étrangers, de familles d'athlètes. Quelques Chinois triés sur le volet, proche du pouvoir. Très peu d'athlètes donc dans ce stade ce soir, parce que les sites de compétition sont loin, à Zhangjiakou, près de la frontière avec la Mongolie, ou à Yangqin, au pied des montagnes qui accueillent le ski alpin. Et avec cette énorme pression de ces contraintes sanitaires, les déplacements sont devenus une complexité rare. Ambiance glaciale aussi dans la tribune présidentielle autour du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, qui vient d'entrer, tout sourire, assis tout proche de Thomas Barr dans un premier temps, mais un peu plus tard dans la soirée de Vladimir Poutine, son homologue et allié russe qui a fait le déplacement, mais sans représentant des gouvernements des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne et même de la France, qui boycotte ces jeux pour dénoncer les atteintes de la Chine aux droits de l'homme. La ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, va venir à Pékin, mais pas avant la semaine prochaine, pour accompagner, soutenir la délégation française.
Et Guillaume, tout ça se déroule sous une bulle sanitaire extrêmement stricte, une politique zéro Covid mise en place par la Chine depuis plusieurs semaines.
Oui, des images incroyables, on les a vues. Les bénévoles chinois qui nous entourent sont en combinaison intégrale, comme dans le bloc chirurgical d'un hôpital. Athlètes, bénévoles, journalistes, tout le monde a le droit au coton-tige quotidien au fond de la gorge, à sa prise de température matin et soir, au masque FFP2, au parcours fléché, au bus imposé, même pour faire 50 mètres, histoire de ne croiser personne hors de cette bulle. Des litres de liquide désinfectant sont par terre, sous nos pieds, imbibés dans des serviettes, projeté sur les poignées de porte, sur les roues des bus. On est dans un véritable état de psychose et d'obsession dans ces Jeux de Pékin qui sont en train de s'ouvrir. La cérémonie commence avec des illuminations vertes qui vont dans tous les sens.
Et puis Guillaume, vous le disiez, hein, la ministre française des Sports n'est pas encore là pour l'instant dans cette cérémonie et ces JO. Quelle présence française par ailleurs ?
Ah ben dans ce stade, ils seront au moins deux ce soir. Les deux porte-drapeaux de la délégation française élue par les Français qui ont participé au vote et aussi par les athlètes. Lui, Kevin Roland, le Savoyard, champion du monde de halfpipe, c'est du ski freestyle, médaillé de bronze à Sochi. Elle, Tessa Worley, la Haut-Savoyarde, championne du monde de ski alpin. Ils sont à la tête d'une équipe de France de 88 athlètes au total, 20 de moins qu'à Pyeongchang il y a 4 ans en Corée du Sud, mais tout aussi décidée et capable de ramener autant de médailles et de battre ce record de 15 médailles, dont 5 en or. Le biathlon va en ramener, c'est sûr. La France est la meilleure nation de la saison, 31 podiums en Coupe du Monde. Perrine Laffont en ski de bosse, ultra favorite, tout comme Tess Ledeux, 20 ans, brillante, qui écrase la concurrence. Elle a ramené 2 médailles d'or il y a 15 jours des X Games, les Jeux des sports extrêmes à Aspen aux États-Unis.
Guillaume Batin avec les moyens techniques de Romain Lucquens en Chine, où il est donc un peu plus de 20h et où se déroule en ce moment même la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin. On vous retrouve à la fin du journal pour le récit de ce début de cérémonie. Ces Jeux, on le disait, se déroulent sur une neige 100% artificielle, sous les critiques évidemment des défenseurs de l'environnement. Critique que Martin Fourcade a du mal à comprendre. Le quintuple champion olympique de biathlon, gros pourvoyeur de médailles françaises, on le disait, estime lui que ça n'est pas vraiment un sujet.
C'est aussi une chimère de penser qu'en France, on skie sur de la neige naturelle. 90% des stations de ski françaises sont équipées de canons à neige.
Donc ça ne veut pas dire que c'est bien aussi. Hein. Ça peut être critiquable.
Je dis pas que c'est bien, mais vous faites griller des tartines le matin. Est-ce que c'est bien ou pas? Pourquoi la neige de culture est-elle stigmatisée? On utilise de l'électricité pour transformer du coup de l'eau en neige en l'envoyant dans l'air. Mais moi, je ne vois pas la différence qui est faite avec chauffer l'eau d'une piscine. Quand il fait noir et qu'on allume la lumière, on utilise de l'électricité partout. Je pense qu'on doit faire beaucoup mieux. Et j'ai juste un peu du mal à comprendre pourquoi on est seul à être stigmatisé, alors que 100% des activités humaines ont un impact sur notre planète. Il y a un tas de choses qui ne sont pas acceptables sur ces jeux. On fait des jeux en Chine, dans un pays qui ne respecte pas forcément les droits de l'homme. Et ça me choque beaucoup plus. Est-ce qu'on aurait préféré faire les jeux ailleurs, dans un pays occidental? Je pense que oui. C'est le cas de tous les athlètes, c'est mon cas. Ensuite, voilà, j'ai pas été décisionnaire de ces jeux, et donc je veux bien porter certaines responsabilités, celle-là, j'estime que je n'ai pas forcément à la porter.
Martin Fourcade qui brigue une place au sein du comité international olympique et qui était ce matin l'invité de Mathilde Munoz dans le 5-7 de France Inter. Et parmi les choses pas acceptables, en tout cas discutables, comme le disait Martin Fourcade, la question des droits de l'homme, mise en lumière notamment par le boycott diplomatique des États-Unis qui dénonce le traitement de la minorité ouïghour par la Chine. Pour aborder cet aspect diplomatique avec nous, le chercheur Jean-Philippe Béja, spécialiste de la Chine au CERI. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce matin, le président russe Poutine, l'un des principaux chefs d'État présents aujourd'hui à Pékin sur fond de boycott diplomatique, a obtenu ce qui ressemble à un soutien de la Chine face aux Occidentaux. Pourquoi Pékin joue-t-il son jeu ?
Écoutez, on peut se demander d'ailleurs qui joue le jeu de qui, mais évidemment, comme vous savez, depuis 2 ans, il y a de très fortes tensions entre la Chine et les États-Unis, et bien évidemment, ça a permis, la Chine se rapproche de tous ceux qui sont des adversaires des États-Unis. Donc la tension qui est en train de se développer entre les États-Unis et la Russie, dans une certaine mesure, profite à la Chine, car elle permet de détourner les États-Unis de leur lutte contre la Chine, qui est, Biden l'avait dit, le compétiteur stratégique. Donc aujourd'hui, s'allier avec la Russie, c'est évidemment un moyen de faire peur aux Occidentaux et d'affaiblir dans une certaine mesure les États-Unis.
Mais Jean-Philippe Béja, est-ce que Pékin qui accueille donc en ce moment même les Jeux Olympiques, est vraiment allié de la Russie ?
Non, pas du tout. Disons que c'est une alliance de circonstances. Hein, il y a de nombreux. En ce moment, Pékin peut aider la Russie à échapper aux sanctions. La Russie permet de monopoliser l'attention des États-Unis, ce qui allège la pression sur Pékin. C'est donc véritablement une alliance de circonstances. Elle risque de durer, bien évidemment, tant que dureront les tensions entre Pékin, Moscou d'un côté et Washington de l'autre. Mais ce n'est pas l'alliance sino-soviétique du début des années 50, par exemple. Il y a de nombreuses contradictions entre les deux pays, notamment les Russes sont très très peur du développement de la présence chinoise en Extrême-Orient soviétique. Il y a donc des problèmes, mais aujourd'hui, ce sont évidemment les intérêts communs qui l'emportent, d'où cette présence forte de Vladimir Poutine à Pékin.
Donc ça c'est pour l'image de ce matin, hein, Vladimir Poutine qui était dans les tribunes, qui est dans les tribunes pour cette cérémonie d'ouverture. On le sait, Pékin a verrouillé la parole hein, juste avant les Jeux. Il a coupé notamment les comptes WeChat, les réseaux sociaux des principaux opposants. Est-ce qu'il peut faire aussi, est-ce que les autorités chinoises aussi peuvent faire taire les athlètes ?
Je crois que, on a entendu tout à l'heure, oui, je pense que les athlètes, c'est difficile à dire, hein, c'est pas non plus le rôle des athlètes de faire des grandes déclarations politiques. Ce qui est certain, c'est que personne n'a protesté contre le fait que tous les opposants, les dissidents ont été non seulement interdits d'Internet, mais aussi placés en résidence surveillée, certains ont été incarcérés, et personne n'a rien dit. Alors faire taire les athlètes, je crois que, on va voir, moi je ne sais pas du tout ce que pensent les athlètes, les spécialistes, les gens qui font des sports d'hiver,
alors on entendait Martin Fourcade un peu critique à l'instant, en tout cas sur la question des droits de l'homme.
Ah, je l'ai trouvé un peu critique sur les droits de l'homme, mais enfin, il y a aussi quelque chose qu'il ignore, c'est que c'est effectivement un désastre écologique, pas seulement parce que c'est de la neige artificielle, mais parce que Pékin se trouve dans une zone semi-aride et qu'on manque déjà d'eau pour alimenter la ville, et que donc faire de la neige artificielle dans une telle région, c'est un gâchis extraordinaire et c'est un véritable désastre écologique. D'autre part, oui, bien sûr, il a dit un certain nombre de mots sur les droits de l'homme. Alors écoutez, on va voir. Il y a une affaire qui est quand même très claire, c'est l'affaire de Peng Shuai, la tenniswoman qui a disparu après avoir dénoncé le harcèlement
par un dignitaire chinois,
un ancien haut dirigeant du parti. On va voir si les athlètes, par exemple, vont soulever le cas de Peng Shuai. Si c'est le cas, ce sera très bien.
Eh ben, on verra ça. Merci beaucoup Jean-Philippe Béja, spécialiste de la Chine, directeur de recherche au CERI. Merci de nous avoir répondu sur France Inter et on reparle, je le disais, des Jeux Olympiques en revenant à cette cérémonie à la fin du journal. Le président français, lui, se rendra en Russie lundi. On l'a appris aujourd'hui, il sera mardi à Kiev, en Ukraine. Emmanuel Macron va bien sûr parler crise ukrainienne, entre crainte d'invasion du pays par les troupes russes et peur de Moscou de voir l'Ukraine intégrer l'OTAN. Rencontre dans 3 jours donc entre le président Poutine et le chef d'État français. Sylvain Tronchet, vous êtes le correspondant de France Inter à Moscou. Le Kremlin veut parler garantie de sécurité.
Comme l'estime un bon connaisseur de la diplomatie franco-russe, si Emmanuel Macron vient à Moscou, c'est qu'il a reçu la garantie du Kremlin qu'il pourra en revenir au moins avec un petit quelque chose. Rien ne serait pire en effet qu'un constat d'échec lors de la conférence de presse commune qu'il donnera avec Vladimir Poutine depuis le Kremlin lundi. Ces derniers jours, les positions des Russes et des Occidentaux ont semblé inconciliables, mais il faut trouver une porte de sortie. La feuille de route du président français n'est pas anodine. Après Moscou, il se rendra à Kiev, probablement dans le but d'obtenir de Volodymyr Zelensky qu'il fasse un geste en direction des Russes en fonction de ce qui aura été dit la veille. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ne s'étaient pas rencontré depuis 2 ans et demi, lorsque le président russe était venu au fort de Brégançon. À l'époque, on voulait installer, côté français, une relation forte entre les deux hommes. Cela n'a pas été le cas, mais cette crise ouvre des opportunités diplomatiques. C'est en tout cas le calcul de l'Élysée, même s'il reste pour l'instant très périlleux. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et la visite du président français à Moscou, c'est un article aussi à lire sur notre site franceinter.fr. Pendant ce temps, le Premier ministre, lui, est attendu à Dunkerque, dans les Hauts-de-France, sur le site du sidérurgiste ArcelorMittal. Jean Castex ne vient pas les mains vides, il doit annoncer le déblocage de près de 6 milliards d'euros pour réduire les émissions polluantes dans le secteur industriel. Une partie du plan d'investissement France 2030, censé permettre à notre pays de s'imposer en Europe comme le champion de la décarbonation. Pourquoi Dunkerque ? Parce que c'est une des usines où ArcelorMittal va fermer 2 hauts fourneaux, plus un autre à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, pour les remplacer par des fours électriques et fabriquer ainsi de l'acier plus vert. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
On se souvient de Florange en Moselle et de son haut fourneau fermé en 2018 qui avait pesé sur le bilan de François Hollande. Là, la fabrication d'acier plus propre, soutenue par l'État, doit permettre de soutenir l'emploi. Mais qu'en disent les syndicats ?
Alors tout d'abord, un soulagement, celui de voir la filière acier et ses hauts fourneaux d'ArcelorMittal se projeter en France au-delà de 2030, car l'injonction et les contraintes européennes environnementales pour diminuer l'empreinte carbone industrielle ont pesé lourd dans le maintien ou le départ d'installations aussi polluantes, explique Xavier Lecoq à la CFE-CGC.
Je pense qu'un groupe comme ArcelorMittal, il y a 1 an et demi, 2 ans, a pu se poser la question, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer de produire l'acier en Europe ? Est-ce qu'on ne va pas plutôt le faire venir d'Amérique du Sud, d'Asie ? Et là, ça conforte. Le groupe dit oui, on va continuer de produire, on va changer les procédés pour moins émettre de gaz à effet de serre. Donc ça pérennise toute la filière et c'est quand même ça qui est très, très positif et très rassurant.
Produire de l'acier décarboné avec 40% de dioxyde de carbone en moins, soit 8 millions de tonnes de CO2 économisées chaque année, implique d'abandonner le charbon, de transformer l'outil de production vers l'hydrogène et l'électricité et donc de transformer les métiers. Il faudra donc former plusieurs milliers de salariés, insiste Jean-Marc Crévin à la CFDT.
Bien évidemment, on va être hyper vigilant et la direction le sait. De toute façon, ils sont prévenus. Dès le départ, ils ont été prévenus. Derrière, il va falloir mettre en place des formations, les compétences, surtout pas de perte d'emploi. Quand on a fermé le haut fourneau de Florange, à un moment donné, ok, on s'est battu. Aujourd'hui, on a des installations qui tournent et qui tournent très bien à Florange. Alors, il n'y a plus d'eau fourneau, certes. Mais aujourd'hui, ça évolue, c'est la décarbonation, on ne peut pas faire autrement. Et on va faire en sorte pour que, bien évidemment, que les salariés y retrouvent leur compte.
Les négociations sur la transformation de ces sites et la gestion prévisionnelle de l'emploi débuteront dès la semaine prochaine.
Et à ce jour, la fabrication d'acier représente 7% des émissions mondiales de dioxyde de carbone. En bref, au chapitre éco, nouvelle preuve de la bonne santé de l'emploi en France. Les créations de postes dans le privé ont augmenté l'an dernier, plus 3,3% sur un an. C'est mieux qu'avant la pandémie. Des emplois supprimés en revanche chez Le Bon Coin, le site de revente de produits d'occasion et petites annonces. Une centaine de postes administratifs devraient disparaître. En cause, une réorganisation de l'entreprise qui s'est beaucoup agrandie ces derniers temps mais affiche un chiffre d'affaires en hausse. La vente d'occasion, une vraie tendance, tout comme le recyclage, le déstockage. On en parle avec nos invités à 13h30 à l'occasion de l'opération de l'ADEME Osez Changer. Plusieurs foyers français ont accepté de se délester de leurs objets inutilisés. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000. L'épidémie de Covid recule doucement alors que notre immunité progresse. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, depuis la dernière semaine de décembre, 11 millions de personnes ont été contaminées par le variant Omicron, plus de la moitié des contaminations à la Covid depuis le début de la pandémie. Et le recul du virus, désormais engagé, se voit à l'école. Confirmation par le ministre de l'Éducation ce matin. Moins de 17 000 classes sont fermées contre plus de 20 000 la semaine dernière. Le protocole sanitaire pourrait être allégé après les vacances d'hiver. Réunion mardi prochain avec les syndicats pour en décider. Au chapitre santé, journée mondiale contre le cancer aujourd'hui avec une avancée pour les malades. Au Parlement, la commission mixte paritaire donne un premier feu vert au droit à l'oubli raccourci pour les patients atteints par cette maladie. Autrement dit, ceux qui sont en rémission n'auraient plus à déclarer leur cancer à leur assureur après 5 ans contre 10 aujourd'hui. Sur le plan de la recherche maintenant, on avance aussi avec une nouvelle piste pour les chercheurs. Le microbiote, ce milliard de bactéries qui peuple notre tube digestif, pourrait être une clé pour traiter le cancer. L'Institut anticancer Gustave Roussy prend cette hypothèse de plus en plus au sérieux. Il lance cette année un essai clinique sur une centaine de patients. Objectif, Véronique Julia, vérifier si une bactérie de nos intestins peut rendre plus efficace l'immunothérapie.
On le sait, l'immunothérapie, qui consiste à réveiller le système immunitaire pour qu'il s'attaque à la tumeur et la détruise, ne marche pas sur tous les patients. Une grande partie d'entre eux ne répondent pas à ce traitement. Et l'un des facteurs de cette résistance pourrait être la composition de leur microbiote. C'est une équipe de Gustave Roussy qui l'a établie en 2015. C'est d'ailleurs considéré comme une découverte majeure de cancérologie de ces 10 dernières années. Les chercheurs ont même identifié dans ce microbiote une bactérie en particulier, bactérie Akkermansia, qui pourrait être déterminante. L'essai doit débuter courant 2022. Il va porter sur 150 patients ayant des cancers du poumon ou même du rein. Ils prendront cette bactérie par voie orale en plus de leur immunothérapie. Fabrice André est le directeur de la recherche à Gustave Roussy.
L'hypothèse, c'est qu'effectivement, en donnant cette bactérie qui manque aux patients, on va permettre à l'immunothérapie de marcher. Donc si déjà on pouvait, chez 10% des patients, réverser la résistance à l'immunothérapie, on aura fait un pas en avant.
Dans le monde, d'autres équipes travaillent sur le sujet, mais avec des approches différentes. Certaines parient plutôt sur la transplantation fécale ou greffe de sel. On donne aux patients non pas une seule bactérie comme ici, mais le microbiote entier, c'est-à-dire toutes les bactéries intestinales d'un sujet sain, en espérant là encore vaincre au moins partiellement la résistance au traitement.
Ça devait être la semaine du lancement de campagne pour Christiane Taubira, la candidate désignée par la primaire populaire pour porter les couleurs de la gauche à l'élection présidentielle. L'ex-garde des Sceaux démarrait avec cette majorité franche obtenue auprès de 400 000 citoyens votants. Elle fêtait aussi son anniversaire mercredi. Bref, tout semblait bien parti. Sauf que rien ne s'est déroulé comme Christiane Taubira et ses équipes l'espéraient. Antoine Gignot, la nouvelle candidate de gauche semble déjà à la peine.
Aucune trace des coups de fil qu'elle devait passer aux autres candidats de gauche. Anne Hidalgo, comme Jean-Luc Mélenchon, n'ont échangé qu'un SMS avec Christiane Taubira, lui reprochant d'ajouter une candidature dans la campagne. Ses détracteurs attaquent le manque de connaissance des dossiers et mettent en avant sa prestation cette semaine face aux représentants de la Fondation Abbé Pierre.
On reste sous le seuil de pauvreté quand même.
Oui, mais on y ajoute... On peut y ajouter l'APL d'une part.
Ça n'a pas été préparé, lance un ancien ministre socialiste qui s'attaque au passage à la personnalité de Christiane Taubira. Elle s'énerve, elle est autoritaire, dit-il, même si elle masque tout cela derrière un discours de citoyenneté. Autour de l'ex-garde des Sceaux, l'équipe fait bloc, dénonce des attaques coordonnées. Olivia Fortin, adjointe au maire de Marseille et soutien de Christiane Taubira.
Elle devient la cible aujourd'hui. Pour moi, on se trompe d'adversaire. Ce qu'on doit combattre, ce sont les projets de droite et d'extrême droite qui, eux, continuent d'avancer sereinement. Aujourd'hui, pour moi, la priorité, elle reste à se rassembler.
Rassembler, mais pas derrière Christiane Taubira. Voilà le discours des autres partis de gauche, à l'image de Sandrine Rousseau chez les écologistes, qui demande à l'ex-ministre de la Justice de rejoindre Yannick Jadot.
Antoine Gignot, service politique de France Inter. À la Réunion, le cyclone Batsira et ses rafales à 200 km/h sont passées. Plusieurs milliers de foyers encore privés d'électricité. Pour faciliter les indemnisations, le préfet engage une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Les marins du pétrolier Tresta Star, échoués sur la côte sud de l'île, ont eux pu être secourus, mais ils témoignent avoir eu vraiment très peur. En métropole, des recherches sont en cours au large du Havre pour tenter de retrouver deux pêcheurs dont le bateau, le Milano, a coulé la nuit dernière. Un troisième homme a été récupéré par les secours, mais il est décédé lors de son transfert à l'hôpital. À 13h21, sur Inter, comme tous les vendredis, c'est l'heure de notre chronique Arrêt sur audience, les coulisses du procès des attentats du 13 novembre 2015, avec nos envoyés spéciaux à la cour d'assises sur l'île de la Cité à Paris. Aujourd'hui, c'est Sophie Parmentier. Bonjour Sophie.
Bonjour Marion.
20e semaine d'audience, les interrogatoires des accusés se poursuivent et cette semaine, on a entendu ceux qui nient toute radicalisation. Et d'abord Sophie, le frère du commanditaire des attentats.
Oui, alors Yassine Attar a été interrogé pendant deux jours, je vous le décris, cheveux courts, barbe de trois jours à peine et chaque jour une chemise en jean impeccable. Il est accusé d'avoir fait partie de la cellule terroriste franco-belge, par exemple d'avoir eu la clé de la planque de Salah Abdeslam, mais pas seulement. Et c'est un accusé surtout particulier parce qu'il est le petit frère du commanditaire présumé des attentats, Oussama Attar. Oussama Attar qui lui aussi est accusé de ce procès, mais un accusé fantôme, présumé mort en Syrie. Alors ce qui s'est passé cette semaine avec Yassine Attar dans le box, et qu'on a bien vu qu'il y avait l'ombre de ce grand frère commanditaire qui planait au-dessus de lui. Et moi, j'ai été frappée par la difficulté de prouver la radicalisation de Yassine Attar, qui a été assaillie de questions de la cour, notamment sur des messages, des contenus informatiques qui pouvaient laisser supposer sa radicalisation religieuse dans les bras du grand frère. Par exemple, on a senti des glissements dangereux dans les questions. Est-ce que le fait qu'il ait écrit qu'il voulait que son fils soit pieux faisait de lui un potentiel islamiste radical? En tout cas, il s'est défendu avec un flot de paroles tout à fait impressionnant. On peut noter que ça contrastait d'ailleurs avec d'autres accusés. Vous savez qui, ces dernières semaines, eux, ont exercé leur droit au silence.
Et Sophie, qui la cour va-t-elle entendre cet après-midi?
Alors, la cour entend aujourd'hui Abdellah Choua, qui a 40 ans et qui est l'un des trois accusés comparaissant libre à ce procès. Vous savez que chaque matin, il y a trois accusés qui arrivent à pied, tout seuls, et qui repartent le soir sans menottes. Ils ne sont pas dans le box vitré, mais ils sont sur un strapontin. Donc, Abdellah Choua a commencé à arriver tout à l'heure à la barre. D'ailleurs, son avocat a signalé que sa mère avait porté plainte, car elle y avait eu contre elle des menaces de mort. Ce que je veux vous dire autour de Abdellah Choua, qui n'est pas le seul à avoir été entendu. Il y a eu aussi Hamza Atou, le plus jeune, 27 ans, et puis Ali Oulkadi, autre accusé sur son strapontin. Et pour tous, en fait, on cherche à savoir en effet s'ils ont été radicalisés, s'ils ont vu aussi la radicalisation, notamment de Brahim Abdeslam, kamikaze du 13 novembre, qui était leur ami ou leur patron. Eh bien, ça a été difficile à prouver, en tout cas cette semaine dans les interrogatoires.
Et puis, en marge des audiences, Sophie, un document a retenu votre attention cette semaine.
Oui, alors c'est l'expertise psychiatrique de Salah Abdeslam qui a été versée au débat, expertise réalisée en novembre dernier. Salah Abdeslam a dit au psychiatre qu'il supportait bien le procès, que le témoignage des victimes n'avait pas été agréable à entendre. Il s'est décrit comme quelqu'un de gentil. Il a dit que c'était son humanité qui l'avait poussé à rejoindre l'État islamique. Il a dit au psychiatre qu'il n'avait tué personne. En tout cas, les psychiatres ont conclu qu'il n'y avait aucune maladie mentale concernant l'accusé Abdeslam. L'accusé Abdeslam qui va être entendu par la Cour la semaine prochaine.
Sophie Parmentier, merci à vous. Avec les moyens techniques de Stéphane Beaufils, on continue à suivre ce procès avec vous. Il doit durer jusqu'en juin prochain. Une décision de la Cour de cassation qui vous concerne peut-être si vous ne voulez pas figurer en photo sur le site internet de votre entreprise, pour garder un certain anonymat ou simplement parce que votre tête sur le cliché ne vous revient pas. C'est possible, disent les juges. Question de droit à l'image. Steven Goyer, les juges étaient saisis sur le sujet par les salariés d'une entreprise de construction de pavillons.
La photo voulait témoigner d'une forme d'unité au sein de la société, une sorte de photo de famille soudée où les deux maçons s'affichent aux côtés de leurs collègues de l'entreprise de construction de pavillons. Photo assez classique de présentation de l'équipe. Problème, les deux hommes n'ont pas donné leur autorisation pour la diffusion. Une photo finalement retirée du site avant l'arrivée de l'affaire devant la justice. Les prud'hommes et la cour d'appel ont dans un premier temps rejeté la demande de réparation en estimant que les anciens salariés n'avaient subi aucun préjudice. Mais pour leur avocate à la cour de cassation, maître Manuela Grévy, la diffusion sans autorisation est elle-même un préjudice.
L'image n'est pas quelque chose d'anodin. Toute personne dispose en quelque sorte d'un droit exclusif sur sa propre image. Ce droit lui permet d'autoriser ou de refuser la reproduction, si vous autorisez la reproduction, de déterminer les modalités et de vous opposer à la diffusion. La Cour de cassation en déduit qu'il suffit qu'il y ait une atteinte à ce droit pour que la victime obtienne réparation.
Et le dossier est désormais entre les mains de la Cour d'appel de Bordeaux.
Un joueur de l'équipe de France de rugby condamné à 18 mois de prison avec sursis. Mohamed Awa s'est impliqué dans le cambriolage d'un bureau de tabac à Montpellier. C'était il y a 8 ans. Et puis côté terrain, on a le casting des rugbymen sur la pelouse du Stade de France dimanche face à l'Italie dans le tournoi des 6 nations. Charnière 100% toulousaine avec Antoine Dupont et Romain Ntamack. Le sélectionneur Fabien Galthié, lui, vient d'être testé positif à la Covid-19. Allez, avant de clore ce journal, on retourne en Chine où la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques est en cours depuis près d'une demi-heure maintenant au Nid d'Oiseau de Pékin. Guillaume Batin, vous suivez toujours l'événement pour France Inter, alors racontez-nous.
Alors 15 tableaux sont programmés dans cette longue cérémonie d'1h53, donc il reste encore un bon moment à passer dans ce stade glacé pour la délégation française à attendre son passage, des travailleurs chinois, des étudiants de la province du Sichuan, des universités de Pékin sont chargés d'animer cette longue cérémonie avec en marge des slogans, un monde, une seule famille, ensemble pour un avenir partagé, des mots qui veulent transmettre évidemment les valeurs universelles des Jeux Olympiques, mais qui détonne avec les raisons qui poussent de nombreux pays à boycotter ces Jeux diplomatiquement, pas sportivement, les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France également, puisque la ministre des Sports n'arrivera que la semaine prochaine. Cette cérémonie utilise aussi des images, des métaphores, celle du panda, cet animal sacré, mascotte de ces Jeux. Ce personnage s'appelle Bing Duanduan, petit pilier de glace, symbole d'énergie et de persévérance, comme nos champions, le panda, le tigre aussi, qui est l'animal de cette année, puisqu'on est en train de fêter le nouvel an chinois actuellement. Le drapeau chinois a été levé, porté au rythme des soldats de l'armée avec l'hymne national, la marche des volontaires. Là, on est actuellement dans ce long défilé de délégations des sportifs. On a vu évidemment la Grèce débuter, les Jamaïcains du bobsleigh. On attend la France et c'est Israël pour l'instant qui agite ses drapeaux en plein milieu du stade du Nid d'Oiseau, le stade de Pékin qui accueille cette cérémonie d'ouverture des 24e Jeux d'hiver.
Guillaume Batin et Romain Luquins, depuis la Chine pour France Inter, vous nous ferez suivre avec nous toutes nos équipes ces Jeux Olympiques pendant un peu plus de 2 semaines. Dans quelques instants, Osez changer, l'ADEME, Association pour l'environnement, nous invite à vider nos placards et à donner une deuxième vie à tous ces objets superflus. Vos questions et témoignages 01 45 24 7000. Mais d'abord, la météo pour ce week-end, début de vacances pour certains.
Je suis le docteur Salman. J'ai découvert dans les textes sacrés que la bonne santé, ça se soigne. Il suffit de quelques minutes par jour pour changer la vie. Perdre du poids sans se serrer la ceinture, faire un jeûne séquentiel qui marche, découvrir l'orgasme sec qui amène le couple à l'extase. Tout est possible. Faites de votre santé un succès. La santé devant soi, mon nouveau livre chez Robert Laffont.
Le temps pour votre vendredi et pour votre week-end aussi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et Elodie Callec, bonjour.
Bonjour à tous.
Les vacances commencent pour certains, mais le temps est souvent humide.
Oui, on a une perturbation qui arrive par la Manche et qui glisse rapidement vers les Charentes et la frontière belge avec un bref passage pluvieux du vent. Juste après, on a de l'air plus frais et plus sec qui s'engouffre, donc le soleil fait son retour de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, puis jusqu'en région parisienne en fin d'après-midi. Ce soir et cette nuit, ce temps perturbé gagnera le sud, l'est. Il neigera un petit peu en montagne autour de 1000 mètres, puis 600 mètres. En attendant cet après-midi, du sud-ouest au nord-est, beaucoup de nuages, quelques gouttes, quelques éclairs de temps en temps. De la Méditerranée aux Alpes, là c'est du soleil avec du vent en Méditerranée. Pour les températures, 17 degrés à Montpellier, 14 à Nice, 13 à Agen, 11 à Lyon, Bourges, Nantes ou Paris, 7 à Rouen et 5 à Lille. Et puis demain, on aura une journée agréable, alors mitigée encore le matin sur le sud-ouest, le centre-val de Loire, le Grand Est, on aura pas mal de nuages, mais c'est bien le soleil qui s'imposera. Et puis dimanche, du soleil au sud, mais une perturbation active traversera le nord du pays.
Merci Elodie Callec de Météo France. Il est 13h et presque 31 minutes sur Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Allez, commençons cette séquence avec un petit test de tête. Combien de paires de chaussures y a-t-il dans vos placards? Bon, allez, maintenant, ouvrez la porte et comptez. Vous trouverez sans doute deux fois plus de souliers que ce que vous imaginez, trois fois plus que ce dont vous avez besoin. C'est un des enseignements de l'opération Osez changer, dont le bilan a été dévoilé cette semaine par l'ADEME, l'Agence pour l'environnement. 21 familles françaises ont participé au défi pendant 7 mois. Objectif, trier, désencombrer et prendre conscience aussi du gaspillage et de la surconsommation. Tout ça vous parle, hein, sans doute, vous qui trouvez votre logement trop encombré. On en parle avec Valérie Guillard, professeure à Paris Dauphine, auteure de Comment consommer avec sobriété aux éditions de Book. Bonjour.
Bonjour.
Et avec nous aussi l'une des cobayes de l'opération, Aurore Garas, puéricultrice qui habite à Parentis-en-Born dans les Landes, un pavillon avec son mari et ses trois enfants. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors dans le bilan de cette opération Osez changer, est-ce que vous avez eu des surprises, Valérie Guillard ?
Et les surprises, en fait, c'est peut-être la seule étude qui permet de dénombrer le nombre de possessions des foyers et de mettre vraiment en exergue ce que, effectivement, comme vous le dites, on sait tous, qu'il y a vraiment un écart très important entre ce qu'on pense avoir, ce qu'on a vraiment. Donc la surprise a été notamment à ce niveau-là.
L'ampleur de l'écart.
L'ampleur de l'écart, exactement. Mmh. Et quelle que soit la catégorie d'objets.
Mmh. Des vêtements,
Des meubles, des chaussures.
Des appareils électriques aussi, ça.
Appareils électriques, etc. Exactement. Et puis aussi le bricolage, parce qu'il y a aussi 6 catégories d'objets qui ont été passés au crible dans 21 foyers témoins.
Alors, Aurore Garas, vous avez été soumise à la torture, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé?
Bien d'abord, il y a eu la sélection, donc il a fallu candidater dans un premier temps, et ensuite donc les 21 familles ont été sélectionnées.
Mais déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à candidater? Vous avez l'impression d'être trop serré dans vos objets?
Alors nous, c'était pas ça le but. Nous, c'était vraiment par curiosité, puisque on est plutôt déjà dans la sobriété heureuse, dans le minimalisme. Mais par contre, moi, dans mon travail, j'accompagne des familles en tant que soutien à la parentalité, et j'étais vraiment intéressée par ce projet de l'ADEME pour pouvoir trouver, avoir des chiffres, avoir des outils à transmettre aux familles pour justement basculer dans une consommation un peu plus responsable. Mmh. Et bien qu'étant déjà pour nous dans le minimalisme, on a quand même eu des surprises aussi.
Alors dites-moi.
Ouais, effectivement, par rapport au bricolage, où on sait, j'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble qu'on avait 8 kilos de boulons et visseries. pour chaque fois qu'on a besoin d'une vis en particulier, ne pas avoir la bonne de toute façon. Donc voilà, ça a été, nous là, les surprises ont été dans les parties extérieures à la maison, ce qui était garage, abri de jardin, les choses que l'on ne voit pas au quotidien, où au niveau du désencombrement, on était beaucoup moins bon que dans la maison où on avait l'habitude de fonctionner comme ceci.
Et donc, au bout de plusieurs mois, vous avez réussi à faire un peu le vide, à enlever tous ces objets superflus?
Oui, tout à fait. Là, le projet était sur 6 mois. Donc, d'avril à octobre, on a été accompagné, chaque famille, par une home organizer qui nous rendait visite.
Une sorte de coach, d'accompagnateur, voilà, en quelque
tout
sorte.
Tout à fait. Donc, avec du travail à faire pendant qu'elle n'était pas là, avec des objectifs fixés à atteindre. Et donc, nous, les chiffres, on a réussi, dans les 6 catégories, à sortir 30% de nos possessions. Et sur les familles, en général, la moyenne est au-delà de 60%.
Et donc ça se traduit comment dans votre quotidien? Vous avez plus de place ou...
Exactement, plus d'espace. Alors nous, on fonctionne beaucoup au projet dans la famille pour se motiver. Déjà, le fait d'avoir une contrainte de home organizer, d'avoir quelqu'un qui vous donne rendez-vous en disant tel jour, telle heure, je serai là, ça motive, hein. On n'a pas trop le choix. Et nous, on s'était fixé un projet qui était d'aménager dans l'abri de jardin qui fait 18 mètres carrés, de gagner de l'espace pour aménager une salle de musique.
Et ça, c'est fait.
Et voilà, on a gagné 7 mètres carrés au sol, donc ça fait, je pense, ça doit faire bien 9 mètres carrés d'emprise. Voilà, donc on a pu faire une salle de musique spécifique avec une batterie qui a rejoint notre famille, mais ça c'était le projet. Donc pour pouvoir avoir un espace, donc on a réussi à gagner ce volume-là sur le volume qu'on avait dans la maison et encore plus à l'intérieur. Voilà.
Et malgré tout, ça représente des contraintes aussi. J'imagine que tout ça prend du temps, de l'énergie.
Alors oui, c'était assez fatigant, fastidieux, démoralisant par moment. Ce qui était surtout compliqué, c'était le comptage et les pesées. C'est-à-dire que l'ADEME avait cherché des chiffres, des stats. Donc il fallait compter chaque objet, peser chaque catégorie d'objets, compter ce qu'on gardait, ce qu'on donnait, ce qu'on recyclait, ce qu'on vendait. Donc ça, c'est quelque chose qui était très, très contraignant, mais qui n'est pas nécessaire à faire quand on veut désencombrer sa maison sans offrir les statistiques à l'ADEME. Mais nous, c'était l'engagement au départ aussi. Notre intérêt personnel était de savoir un petit peu la consommation réelle des Français. Donc, on a fait notre part en participant à ces stats.
Valérie Guillard, effectivement, il y a tout de même cette... Alors, on voit bien le gain que ça peut représenter de vider comme ça un tiers de ces objets superflus. Mais il y a quand même cette notion de contrainte.
Oui, alors il y a une notion de contrainte parce qu'il faut du temps. Il faut avoir un temps disponible pour pouvoir se mettre à la tâche, s'attaquer à la tâche. Après, c'est contraignant parce que c'est vrai qu'on se fait accompagner souvent par un home organizer, ça va beaucoup plus vite. Et le home organizer va vraiment nous permettre de poser des questions sur les objets et de s'en séparer, et notamment sur les objets les plus émotionnels, ce que nous avons beaucoup de mal à faire.
Donc, voilà, il faut débarrasser les objets de leur charge
émotionnelle,
voilà, de leur valeur sentimentale.
C'est ça. Et en parlant, on prend conscience que c'est pas parce que vous vous séparez de l'objet que vous vous séparez du souvenir ou de la personne qui l'incarne. Mais c'est vrai que c'est le fait de le verbaliser nous permet d'en prendre conscience.
Donc les intervenants qui accompagnaient les cobayes, c'était quoi? C'était des psychologues en quelque sorte?
Il y a une dimension, je pense, vraiment psychologique dans leur métier. Hein. Ce métier est très méconnu, le home organizer, alors que ce sont vraiment des personnes qui nous permettent de nous séparer des choses et de réagencer ensuite selon une certaine façon de vivre, j'ai envie de dire, dans des espaces, des objets. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle c'est assez contraignant, parce que le home organizer va mettre peut-être le doigt là où ça, entre guillemets, peut faire mal, sur des objets qui renferment des choses, des souvenirs, des personnes qu'on n'a pas forcément envie de réouvrir.
Mais là, en l'occurrence, c'était des personnes qui étaient mandatées par l'ADEME. Mais est-ce que moi, dans mon quotidien, si je décide demain de déménager, de vider mes placards, je peux avoir un home organizer qui va venir m'aider, un accompagnateur? C'est un métier que je peux trouver dans l'annuaire sur Internet?
Bien entendu, il y a même une fédération des home organizers. D'ailleurs, même pas qu'en France, mais déjà en France, il y en a une. Et puis, bien entendu, c'est un service. Donc, comme lorsque vous me parliez de contraintes, il y a aussi un service, donc une prestation de service. Donc, bien sûr, une rémunération de la personne. C'est un vrai service. En fait.
Vous connaissez les tarifs aujourd'hui?
Alors là, je suis un peu incapable je veux pas dire des tarifs. C'est pas que je ne souhaite pas les dire, mais en fait, regardez sur Internet, toute personne intéressée regardera sur Internet. Et voilà, exactement. En tout cas, il y a un tarif qui est complètement, j'ai envie de dire, transparent et qui varie très peu selon les personnes, les home organizers.
Françoise nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Vous avez un témoignage au sujet de ces stocks qui nous encombrent au quotidien?
Oui, j'ai une amie japonaise et j'étais en train de lire La magie du rangement, qui vient d'une écrivaine japonaise. Ça a été un très grand record de vente. Voilà. Et mon amie japonaise me disait, oui, ce qu'elle dit, c'est très bien, mais il faut la resituer dans une société ultra consommatrice. Et moi, je me méfie de ce qu'elle dit parce que ça peut pousser aussi les gens à racheter immédiatement derrière leur rangement par le vide.
Mmh. C'est-à-dire qu'on vide pour re-remplir, en quelque sorte.
Voilà. Et au lieu de réparer, repriser, customiser, voilà, qui sont quand même des actes créatifs, assez jouissifs d'ailleurs, parce que ce sont souvent des objets auxquels on tient quand même.
Mmh. Merci Françoise. Valérie Guillard, l'idée de l'ADEME, c'est pas ça justement, c'est pas de vider pour remplir.
Non, tout à fait, et merci beaucoup Françoise pour votre témoignage, parce qu'en fait ce que je n'ai pas expliqué, c'est que dans le métier de home organizer, donc dans l'accompagnement de ces professionnels, il y a vraiment l'idée d'apprendre à faire le tri et justement à ne pas remplir les placards à nouveau. C'est vraiment apprendre à se désencombrer. Alors vous allez peut-être dire, c'est quand même curieux comme apprentissage. Oui, mais comme vous l'avez dit, dans une société de consommation depuis très longtemps, eh bien, on a à apprendre, voilà, il faut pas en avoir honte, à apprendre effectivement de se désencombrer de tout ce qu'on a accumulé. Et en fait, l'objectif d'un home organizer, c'est vraiment que la prestation vous apprenne à le faire et donc que ça soit pérenne. C'est-à-dire que lorsque c'est vide, comme vous le dites Françoise, eh bien, on laisse la place vide.
Mmh. Aurore Garras, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, votre place que vous avez libérée, elle est libre, vous l'avez pas remplie avec des nouveaux objets.
Non, alors là c'est que depuis octobre, hein, donc on n'a pas assez de recul, mais effectivement nous c'était notre inquiétude de que ça se remplisse aussi vite que ça s'est vidé. Après on acquiert des outils aussi, l'idée de chaque chose à sa place, hein, chaque place pour un objet. Donc quand il y a une superficie, enfin un volume qui est défini à une catégorie d'objets, ben on va pas plus loin que ce volume. L'outil aussi de dire un objet qui rentre égale un objet qui sort. Donc ça marche très bien avec les enfants. Nous, on a 3 enfants, donc ils savent très bien que ben, s'ils veulent un nouveau livre, par exemple, ben, la bibliothèque est en pleine, on peut pas les mettre par-dessus, donc ben, il faut en sortir.
Est-ce qu'on parlait tout à l'heure? Pardon, allez-y.
Oui, après, on va être beaucoup sur l'achat d'occasion, sur le troc, sur l'échange.
On parlait tout à l'heure de la valeur sentimentale. Est-ce qu'il y a des objets dont vous avez eu du mal vraiment à vous débarrasser et où la personne, l'intervenant qui vous accompagnait a été décisive?
Oui, ça a été intéressant parce que c'est des catégories où on n'aurait pas identifié tout seul. Donc c'est le fait d'avoir quelqu'un de neutre à côté qui a pu mettre en avant ces choses-là. Alors pour mon homme, c'était les maillots de hand. C'est un handballeur et donc il avait tous ses maillots de hand des différentes équipes, des différents clubs dans lesquels il est passé, dont certains maillots qui ont plus de 20 ans. Et pour moi, c'était les t-shirts de concert. Pareil, des t-shirts qui datent de très 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 longtemps, qui ne sont pas mis tous les jours, autant vous dire. Hein. Donc on a pu faire du tri et voir comment on mettait ces objets en valeur si on voulait vraiment les conserver. Donc on peut les prendre en photo, les mettre dans un album, on peut aussi les accrocher au mur, carrément faire une exposition comme des œuvres d'art. Voilà, des outils différents pour mettre en valeur ce qui nous tient à cœur.
Valérie Guillard, Aurore Garras, là, elle parle d'un travail qui a été fait en couple, mais est-ce que ranger, c'est pas plutôt un travail que font les femmes au quotidien?
Alors effectivement, c'est une pratique assez genrée parce que ben, c'est encore les femmes aussi qui s'occupent beaucoup des affaires des enfants, qui s'occupent de l'intérieur, et ça reste encore vrai. Alors attention, hein, je dis pas que c'est chez tout le monde pareil, mais c'est vrai que principalement, alors moi je dirais il y a deux aspects, il y a cet aspect, et je pense qu'il est vraiment factuel, et puis tout ce qui relève de l'intime reste l'apanage des femmes. Et le rapport à l'objet, il y a souvent un rapport quand même intime, et donc par définition ça reste l'apanage des femmes. Regardez, quand on a vidé la maison d'un proche, soit qui part en institution ou qui décède, c'est souvent en fait la femme qui s'occupe notamment, alors je vous dis pas des œuvres d'art ou des tableaux à forte valeur, ouais, mais souvent bah, des vêtements, des choses comme ça, la vaisselle, bah, c'est souvent les femmes en fait, mais parce que encore une fois le lien à l'intimité, il est très différent selon qu'on soit un homme et une femme.
Et sur la valorisation de ces objets, est-ce que finalement c'est aussi une source de revenus de ranger sa maison?
Oui, alors dans le rapport ADEM, là, qui est extrêmement intéressant, vous avez même un foyer, je crois qu'ils ont vendu je ne sais plus combien d'objets, par contre ils ont gagné 1 800 euros juste de la vente de ce qu'ils avaient en trop. Donc oui, certaines personnes effectivement se sont un petit pactole pour de la suite à la vente de leurs objets inutiles.
Donc ça vaut le coup de prendre le temps. Valérie Guillard, professeure à l'Université Paris-Dauphine, qui a travaillé avec l'ADEME sur l'opération Oser Changer. Aurore Garras, l'une des cobayes de cette opération. Merci à toutes les deux de nous avoir répondu sur France Inter. Ce soir, dans Le Téléphone Sonne, quelles sont les priorités de la lutte contre le cancer? Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter, le 13-14.
13h44 à suivre sur Inter. Dernier épisode de notre feuilleton avec les petits as du tennis français et leur deuxième famille sportive. Parole aujourd'hui à l'entraîneur. Puis ce sera la chronique Le Vif de l'Histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Aujourd'hui, journalisme, guerre d'Indochine et trafic de piastres.
Oui, on gagnait beaucoup mieux sa vie en 48 en vendant des piastres qu'en rangeant.
Rendez-vous juste avant 14h. Mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
À votre micro aujourd'hui, c'est la comédienne Romane Bourringer, actuellement au théâtre du Lucernaire dans Ma vie, ma peau.
Une lecture spectacle à deux voix d'un texte qui nous plonge dans l'Afrique du Sud de l'après-apartheid, l'expérience d'une réconciliation nationale. Et c'est de Jacques Higelin que Romane Bourringer a souhaité me parler, un chanteur dont elle a toujours été fan et qui a totalement bouleversé sa vie quand elle l'a rencontré après un concert à la toute fin des années 80.
J'étais adolescente, j'habitais dans la vallée de Chevreuse, pas du tout parisienne, pas tellement baignée dans le monde artistique malgré ma filiation, parce que mise à l'abri aussi par mon père. Une adolescence tout à fait normale, au lycée, j'allais passer mon bac, et comme toute groupie, j'ai acheté mes places pour aller voir Jacques Higelin aux Ulysses. Hébété de pouvoir assister à ce concert avec ma meilleure amie. On a passé l'obstacle de la sécurité et tout ça. Et on s'est glissé dans les loges. Et j'ai aperçu Jacques dans sa loge et je me suis vraiment effondrée en larmes. Il m'a vue, je pense comme une jeune adolescente éplorée. Il m'a pris dans ses bras. Peut-être vous connaissez mon papa, je suis la fille de Richard. Bon, j'ai Richard, ah bah oui, bah alors. Donc il m'a consolée, il m'a signé une affiche, j'étais dans tous mes états, et il m'a présenté son fils, Ken Higelin, son fils, grande beauté, grand talent, qui a fendu la foule tel un prince charmant, un deuxième coup de foudre. Et là, Ken me dit, mais c'est incroyable, je te regarde, et je suis en train de travailler sur les répétitions d'une pièce, le metteur en scène cherche une jeune actrice, est-ce que tu es actrice? Genre, pas du tout, je dis non, je me fais théâtre. Puis, sous la pression soutenue de Ken, les jours suivants, j'ai pris mon RER pour aller au Bouffe du Nord et passer cette audition avec Peter Brook, qui a littéralement changé ma vie. J'ai découvert mon endroit, qui j'étais, ma passion. Tout a changé.
La tempête.
Oui, la tempête de Shakespeare.
Et Ken.
Et Ken.
Qui est devenu votre amour à ce moment-là?
Un peu plus tard.
Le jour va bientôt se lever sur la baie de Calvi.
Le jour va bientôt se lever sur la baie de Calvi. Je lève mon verre, le cœur gros, aux frères, aux amis de Tao.
Je lève mon verre, le cœur gros, aux amis de Tao.
Cette chanson, Frédéric, c'est la ballade de chez Tao.
Tao, qui était un grand ami de Jacques Higelin. Et si ce titre de 1982 compte autant pour Romane Bourringer, c'est parce que, après être devenue la petite amie du fils de Jacques Higelin et l'amie de la famille Higelin, elle a sympathisé avec la famille de Tao et trouvé une terre d'adoption grâce à cette chanson.
Un jour, je suis partie, alors j'avais 20 ans, un truc comme ça, tourner un téléfilm à Calvi, en Corse. Quand j'ai atterri à Calvi, j'ai dit, oh mon Dieu, mais c'est là la chanson. Et donc, je suis montée, guidée par les paroles de la chanson. J'ai monté les marches de la citadelle. J'ai dit, oh mais c'est là, chez Tao. Donc Tao, un bar mythique où chante Taobi, décrit dans la chanson, tout ça. Puis il y avait un homme à l'entrée, alors là j'étais un peu plus connu, et il m'a dit bonjour, je suis Jean Témir. Et pareil, m'effondrant en larmes, parce que très gros pichy, Jean Témir de la chanson, mais comme dans la chanson, mais alors Cathy aussi, et Taobi, et Zalim.
Jean Témir et Cathy, Taobi, maman Tao, Zalim.
Donc là, vous voyez les visages.
Oui, je vois les visages, les pierres, le soleil, évidemment, la lumière, ce jour qui se lève spectaculairement quand on est dans cette citadelle. Et cette famille, Kerefov, Jean Témir, les autres, m'ont adopté comme une autre famille encore. C'est ma famille de là-bas, ma famille sur l'île. Et la Corse, c'est particulièrement Calvi, et cette maison, tout est décrit dans la chanson. C'est un endroit de réconfort pour moi, de force. C'est un autre endroit d'ancrage, étonnamment. Et puis il y a cette hymne qui est chantée souvent là-bas. Vivez heureux aujourd'hui, car demain il sera trop tard. C'est un refrain que les gens entonnent pour se donner du cœur. Et du coup... À la fois Jacques a ouvert vocation, l'amour, et puis une autre terre.
Avec une chanson.
Ouais, avec une chanson.
La balade de chez Tao, Jacques Higelin. C'était donc Frédéric, le choix de Romane Bourringer.
Romane Bourringer que l'on peut retrouver en ce moment même dans Mon pays, ma peau, une lecture spectacle au théâtre du Lucernaire à Paris.
Merci et à la semaine prochaine, Frédéric.
À lundi.
h 49 sur Inter, dernier épisode de notre feuilleton sur les cours avec les graines de champion du tennis français. Retour au tournoi des Petits As à Tarbes, meilleur tournoi de tennis du monde pour les moins de 14 ans. Beaucoup d'entre eux ont fait un peu de route puisqu'ils viennent du Pôle France de Poitiers, tout comme leur entraîneur qu'on va entendre. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la pause déjeuner au micro de Fanny Le Chevestrier.
Bonjour, moi je prends le calamar et pâtes, s'il vous plaît.
Calamar et pâtes, ça c'est un repas de champion.
C'est la seule pause de la journée, un peu le repas du midi.
Il y a le midi et le soir. C'est des moments très importants, je trouve. Avant les matchs ou après les matchs, il faut se poser et réfléchir à ce qu'on va faire ou ce qu'on a fait. Non, très beau groupe.
Ouais.
9-10. On s'entend super bien ensemble, il n'y a pas de chamaillerie. On se taquine un peu des fois, mais ça reste modéré quand même et on s'entend super bien. Si on ne voit pas nos vrais parents et tout, bah on peut se dire qu'en fait, on a une petite deuxième famille à côté. Donc ça nous rassure.
Ouais, on peut se confier, c'est bien ça.
Toi, tu as déjà un sponsor, c'est ça?
J'en ai deux.
Ça fait pas tourner la tête, ça, quand même?
Non. Franchement, c'est un sponsor, il te donne des affaires, des raquettes et je tape la balle, quoi. Je suis comme une autre personne qui n'est pas sponsorisée. J'ai des affaires comme lui, j'ai une raquette comme lui, je joue comme lui.
Si ça marche pas, est-ce que vous en discutez des fois entre vous?
Oui, c'est pour ça qu'il y a l'école aussi, parce que si au cas où ça fonctionne pas, au moins on sera intelligent, on saura parler devant les gens, calculer, des trucs comme ça. C'est pour ça que l'école, c'est autant important que le tennis.
Et le plaisir, est-ce qu'il y en a quand même encore du plaisir de jouer, de s'amuser, tout ça?
Oui, oui, il y a toujours, 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 toujours.
En fait, si t'as pas de plaisir, tu peux pas en faire ton métier. Nous, on a la chance de faire notre sport qu'on aime en métier. Donc ça peut être qu'une belle vie.
Allez, mangez parce qu'après ça va être froid.
Et moi je vais aller discuter de tous ces sujets avec celui qui couvre ses apprentis champions à Poitiers.
Alors je suis Bruce Liot et je suis le responsable du Pôle France de Poitiers.
Tous ils ont des sponsors. Ils sont déjà l'objet de toutes les convoitises alors que c'est encore des enfants.
Oui, oui, oui. Effectivement, c'est un sport où il y a des agents très tôt, il y a des sponsors très tôt. On est en contact avec les marques qui donnent des vêtements ou des raquettes. Il faut qu'ils arrivent à garder un peu les pieds sur terre, ces jeunes-là. Donc si un jeune casse trois raquettes, moi je demande aux marques de pas changer. On discute régulièrement avec eux de ça, qu'ils ont une chance incroyable que les équipementiers les aident parce que c'est une aide importante. Mais par contre, que la priorité, c'est ce qui va se passer tous les jours sur le terrain. Dans l'ensemble, ils arrivent à garder les pieds sur terre. Ils sont conscients de la chance qu'ils ont. Il faut qu'ils gardent cette âme d'enfant et d'adolescent, même si on est exigeant avec eux. joueurs qui ont une forte personnalité, qui ont de l'ego, qui ont des ambitions. Il ne faut pas casser tout ça. Par contre, il faut leur faire comprendre. On n'a aucune garantie que ça va être des professionnels de tennis. Si on parle des petits à sa table, vous voyez qu'il y a des vainqueurs de table qui ne sont jamais sortis et des joueurs qui ont fait premier tour et qui aujourd'hui font partie des meilleurs mondiaux. Donc, c'est un sport individuel où il y a très peu d'élus. Pour en vivre vraiment, pour être un vrai professionnel de tennis, c'est très dur. Si on veut derrière avoir une garantie un peu financière, il faut être vraiment dans les tout meilleurs. Aujourd'hui, les jeunes que l'on a, nous, à Poitiers, ils ont des qualités pour devenir des joueurs professionnels. Mais il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu qu'on met la scolarité au même niveau que le tennis. On a une convention avec l'éducation nationale. Ce sont des professeurs de l'éducation nationale qui se déplacent sur le CREPS, qui les font travailler 3 heures par jour sur site. Et le soir, il y a des études surveillées avec des gens qui les aident à travailler. Et quand ils sont en tournoi, ils sont en relation avec les professeurs. C'est pas toujours facile, un tournoi, ils peuvent pas toujours travailler. Mais on essaye d'aménager des plages scolaires quand on est en tournoi. Et si c'est pas possible, quand ils rentrent sur le site, on donne un petit peu plus de place à la scolarité. Ils vivent leur passion, on essaye de les aider avec mon équipe et puis bien sûr les parents à s'épanouir et à progresser. Et s'ils sont bien dans leur basket, avec le travail qu'ils font, normalement ils progressent.
Une semaine dans la vie d'apprenti champion, c'est le reportage de Fanny Lechevestrier, réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
13h54, l'heure du vif de l'histoire, chronique d'histoire et d'actualité, actualité littéraire aujourd'hui. Le Grand Monde de Pierre Lemaître, grand maître du feuilleton et déjà un succès de librairie. Jean Lebrun, la trilogie démarre en 1948.
Les personnages appartiennent à la famille Pelletier. Le chef en est Louis, qui possède une savonnerie à Beyrouth. S'il dirige pareille entreprise si loin, c'est qu'il a peut-être des fautes à laver. Le fils le plus débrouillard s'appelle François. Au culot, il a mis un pied dans la porte du journal du soir qu'anime Delisoff. Entendez, François et Lazareff. Mmh. François réussit très bien dans les faits divers. Au journal du soir, il y a deux pôles opposés, le fait divers et la politique. Les changements de gouvernement, Schumann, Cueil ou bien Cueil-Schumann. Et bien sûr, la guerre d'Indochine contre le Vietnam et l'État communiste du Tonkin. Un jour, François, de son propre chef, quitte la casquette de reporter de faits divers et s'en va interroger un sénateur, Edgar de Neuville.
Et il le questionne précisément sur la guerre d'Indochine.
Alors Neuville reprend consciencieusement la vulgate des gouvernements de la 4e République, la guerre froide, le coup de Prague qui vient de faire basculer la Tchécoslovaquie dans le camp communiste, Berlin-Ouest, assiégé par les soviétiques. Il faut, en Indochine, faire pièce au communisme chinois, comme ici, au communisme russe. C'est l'année où Kravchenko, dans « J'ai choisi la liberté », raconte les camps de concentration de Staline. D'ailleurs, Pierre Lemaître n'hésite pas, lui, à décrire les méthodes horribles qu'utilise le Viet Minh en représailles des actions inavouables des Français d'Indochine.
L'un d'eux vient de mourir avant la visite de François au sénateur. C'est un autre des frères Pelletier, Étienne.
Le petit avion privé dans lequel Étienne Pelletier se trouvait s'est mystérieusement crashé. Étienne avait accumulé des documents qui prouvent qu'un trafic monétaire infectait gravement l'Indochine. C'est pour cela que François s'est rendu chez Edgar de Neuville. Et à l'instant où le vaniteux sénateur, flatté d'avoir été interviewé par un grand journal, le reconduit, François se retourne et, tel Colombo, demande « Au fait, avez-vous un compte à la Banque Godard ?»
Et le trafic auquel se livre, entre autres, la Banque Godard, c'est le trafic de piastres.
Alors soyez attentifs, Frédéric et Marion, il faut un peu de concentration pour gagner de l'argent.
On se concentre.
Soit les États dits associés d'Indochine. La monnaie s'y nomme la piastre. Elle a été surévaluée par la République volontairement pour stimuler nos exportations en direction de la péninsule. Quand vous transférez l'équivalent de 8 piastres de Saïgon à Paris, elles sont échangeables contre 17 francs en métropole. Vous vous enrichissez instantanément. Et si vous achetez à Paris de l'or, ou des dollars, ou des marchandises, et que vous rentrez avec à Saïgon, ben vous faites la culbute.
Mais l'administration des monnaies n'est pas si bête, Jean. Elle a prévu un contrôle de transfert.
Oui, et une agence, mais dont les employés vacataires et les secrétaires peuvent être sensibles au pot de vin. Et puis, certains Français ont le droit de transférer. Par exemple, ceux qui quittent définitivement l'Indochine. C'est étonnant de voir comment Saïgon est agité d'un mouvement perpétuel. Beaucoup de partants reviennent aussitôt, saisis d'un irrépressible mal du pays, qui les ramène amène aux tables de jeu du casino. Et il y a les soldats, membres du corps expéditionnaire. Ils peuvent transférer aussi. Et ils doivent gagner au jeu parce qu'ils transfèrent des sommes qui s'avèrent bien supérieures à leurs soldes. Ils servent en fait de prête-nom.
Étienne Pelletier, avant de disparaître, avait laissé un message indiquant que le trafic profitait aussi au Viet Minh communiste, qui occupe déjà le nord du Tonkin.
Pour justifier l'envoi de piastres en France, il fallait aussi bien faire venir et payer des produits exportés. C'est fou ce qu'ils débarquaient à Saïgon de brodequins, de lampes torches et de pansements qui s'en allaient équiper les guérilleros du Viet Minh. Surtout, les circuits s'étaient compliqués par l'introduction de dollars de Hong Kong et les communistes savaient à merveille les manipuler pour acheter à Manille ou à Bangkok quantité d'armes. Il faudra attendre 1953 pour que soit enfin prise la décision qui s'imposait, la dévaluation de la piastre. Alors, où en sera la trilogie de Pierre Lemaître s'il aborde jamais 1953 ? Il aime les films et on a hâte qu'il mette de nouvelles bobines dans la cabine de projection.
Jean Lebrun, à propos du livre Le Grand Monde de Pierre Lemaître chez Calman Lévy. Rendez-vous demain, Jean, 18h15, Intelligence Service au programme.
Madame de Stal, la châtelaine de Coppet.
Et c'est sur France Inter, bien sûr. Toujours sur France Inter, dans un instant, La Terre au Carré. Nouvelle rediffusion pour Mathieu Vidard et Camille Cronier. Tous les deux covidés, on leur souhaite un bon rétablissement. Un grand merci à toute l'équipe du 13-14. Cette semaine, à la rédaction en chef, Sarah Guibaudot, Estelle Schmitt et Anne Patinec. Assistée de Claire-Sophie Collet, Benjamin Ducy, Sylvain Grand et Carline Desrosiers. Aux manettes, Henri Bérec, Sofiane Actib, Louis Audebert et Nicolas Demas. Au standard, merci également à Laura Bléré, Alice Galtier, Yaël Ba, Siwen Lamara et Margot Milo.